Chantal, Arthur, bonjour.
Bonjour, bonjour
Bonjour
à
à tous.
tous.
Bonjour.
Bonjour, donc mon invité aujourd'hui, c'est Arthur. Merci Arthur d'avoir accepté mon invitation et
bonjour,
pour
Chantal.
Venir témoigner. Bonjour, pour venir témoigner auprès de nos auditeurs de Radio Maria sur notre thème « La joie de la rencontre ». Merci beaucoup Arthur, bonjour encore une fois. Arthur, merci. Arthur, vous êtes issu d'une famille catholique pratiquante.
Oui.
Vous êtes membre de la communauté d'Alliance Shalom.
Oui.
La communauté Shalom, elle est implantée à la demande de Monseigneur Ray depuis 17 ans à Toulon.
C'est oui.
Bien ça. Arthur, vous êtes marié et vous êtes père de deux petits garçons de 4 ans et 2 ans.
Oui, exactement.
Exactement. L'état de vie d'époux et de père de famille, vous m'avez dit, a suscité en vous la joie d'une rencontre. Une rencontre tout à fait particulière. Vous voulez bien nous témoigner de cela, Arthur ?
Oui, absolument. Vous me posiez la question de savoir quelle était la joie qui pouvait m'apporter avec une rencontre. C'était celle avec le père adoptif de Jésus, c'est Saint Joseph, qui m'a marqué finalement depuis mon histoire dans l'enfance avec cette image du père protecteur de l'enfant Dieu, mais aussi dans mon adolescence ou même dans mes études où il est vraiment pour moi le signe de cette joie. Un exemple concret par exemple, c'est lorsque j'étais jeune étudiant pendant le carême et j'avais senti qu'il fallait que je fasse un effort particulier un vendredi de carême pour jeûner durant toute cette journée, et heureux d'avoir réussi à faire cela en rentrant dans la maison où je logeais. Je vois tout le monde est en fête et prépare un repas de fête. En fait, ce vendredi-là de carême, c'était le jour de la solennité de Saint Joseph. Et donc, l'Église fait exception ce jour de fête. Et donc, pour moi, Saint Joseph est assimilé à la fête, à la joie. Et aussi, même dans mon cheminement, dans le discernement dans la communauté Shalom, ce Père qui pourvoit aussi à tous nos besoins, ce Père de la Providence, et jusque dans la préparation pour le mariage, où finalement il a été pour moi et mon épouse, ma fiancée à l'époque, notre guide, notre réconfort et notre intercesseur.
Super, d'ailleurs je crois que vous avez donné ce joli prénom à un enfant.
Oui, notre deuxième petit garçon s'appelle Joseph, exactement.
Un beau témoignage, super.
Oui, c'est vraiment une belle occasion.
Oui. Aujourd'hui, Arthur, vous êtes architecte et puis vous êtes délégué par Monseigneur Ray à la commission diocésaine d'art sacré. Vous pouvez nous expliquer un petit peu aux éditeurs en quoi cela consiste-t-il ?
Oui, je suis architecte de profession et avec une spécialité un peu atypique, celle de l'architecture liturgique au service de la liturgie. Et Monseigneur Ray m'a demandé de mettre ce service de me mettre au service du diocèse de Fréjus-Toulon dans la commission d'art sacré. C'est une commission qui existe dans tous les diocèses, qui est instituée après Vatican II, pour accompagner, orienter et former les prêtres, les fidèles et aussi les responsables politiques dans tout ce qui a trait à l'aménagement des espaces liturgiques de nos édifices de culte, les chapelles, les églises, les cathédrales, et d'être celui qui apporte finalement le savoir du code du droit canon pour les aménagements liturgiques, mais aussi qui fait le lien entre le curé, le maire, lorsqu'il s'agit d'églises qui sont affectées, et aussi à la formation de toutes ces personnes sur l'espace liturgique et sur l'art sacré.
Oui, parce qu'on peut passer à n'importe quoi, je suppose, quand on fait une rénovation d'église ou un aménagement intérieur. Je suppose qu'il y a des codes
oui,
à respecter.
Il y a toutes des orientations que l'Église donne, qu'elle a affinées. C'est un héritage de ces 2000 ans de tradition. Et aussi, chaque chose a du sens. L'autel, le lambon, chaque chose dans une église a vraiment son sens.
La place des choses aussi, les endroits où, voilà, où on met par exemple l'embon, pourquoi on met l'embon à tel endroit,
Oui,
ou
exactement.
le cierge
L'embon,
pascal par exemple en ce moment.
oui, vous l'avez vu pendant la vigile pascale. Hein, ce temps pascal, c'est le cierge qui se place à proximité de l'embon. C'est le symbole de la lumière, du Christ ressuscité, de ce verbe de Dieu qui est transmis. Et c'est aussi les mobiliers, mais c'est aussi les fidèles, les êtres humains, hein, quand ils sont là réunis ensemble pour prier dans ce lieu. C'est l'église faite de pierre et l'église faite de chair et de cœur.
C'est beau, hein? D'ailleurs, en lien avec votre partage sur la joie de rencontre de cette rencontre avec Saint Joseph, vous m'avez dit que vous avez été très particulièrement touché par le projet des sœurs de Cotignac. Racontez-nous un petit peu déjà pour nos auditeurs un petit rappel, qu'est-ce qui s'est passé il y a bien longtemps, mais c'est toujours vivant aujourd'hui à Cotignac. Racontez-nous un peu ce qui s'est passé à Cotignac.
Oui, Cotignac, pour ceux qui connaissent, c'est un petit village du haut du Var, dans le sud de la France, où il y a 500 ans, la Vierge Marie apparaît et demande à ce que l'on puisse venir en procession recevoir les grâces qu'elle veut répandre. Et donc, les gens, tout de suite, ont répondu à cet appel de la Vierge et sont allés prier à ce que l'on appelle aujourd'hui le sanctuaire de Notre-Dame-des-Grâces, qui existe toujours, qui est animé et soutenu spirituellement par la communauté des frères de Saint-Jean. Et une petite centaine d'années plus tard, Saint-Joseph, à une centaine de mètres à vol d'oiseau de ce sanctuaire, apparaît un jeune berger, Gaspard Ricard, qui, après une journée de travail et de labeur, avait extrêmement soif, mais ne pouvait pas laisser les brebis. Alors apparaît un patriarche qui lui montre un rocher énorme et qui lui dit: soulève cette pierre et tu boiras. Alors le jeune Gaspard fait cet acte de foi, arrive à soulever la pierre et découvre une source qui est rafraîchissante et qui ensuite s'était révélée une source miraculeuse. L'homme qui est apparu a dit: je suis Joseph. C'est peut-être la seule fois où l'on rapporte une parole de Joseph, parce que dans les évangiles, il est celui qui porte le silence, hein, du père du Verbe, comme disait Paul Claudel. Et donc à Cotignac, ce petit village de Provence, il y a même l'histoire de France qui est rattachée, puisque le père de Louis XIV ne pouvait avoir d'enfants, avait des difficultés à avoir des enfants. Et donc, un moine, le frère Fiacre, a eu en vision le cœur de la chapelle de Notre-Dame-de-Grâce. Et alors des prières ont été dites. Et suite à ce vœu et à cette prière, l'enfant, le roi Soleil, est né. Ses parents sont donc allés ensuite en action de grâce. Et lui-même, lorsqu'il est descendu dans le sud de la France, est venu rendre grâce à Dieu pour sa naissance à Notre-Dame-de-Grâce. Un an plus tard, Saint Joseph apparaît en 1660, le 7 juin, et une année plus tard encore, le jeune Louis XIV décrète la fête de Saint Joseph, 19 mars, le jour chômé pour tous les travailleurs. C'était avant le 1er mai, hein. Donc voilà, cette histoire de France, elle est ancrée depuis plus de 500 ans à Cotignac, à Notre-Dame-de-Grâce et au Bessillon.
Bon, hein, c'est une joie énorme d'avoir ce lieu très saint dans notre Provence chérie, qui doit être visité mondialement, hein, je pense.
Oui, c'est l'une des rares apparitions reconnues de Saint Joseph. Et donc, c'était pour moi qui vous ai expliqué rapidement, hein, l'amour que j'avais pour Saint Joseph. C'était le lieu où je pouvais aller le rencontrer. C'est le lieu où je pouvais aller déposer à ses pieds des intentions de prière. C'est le saint patron de la Providence. C'est celui qui aide pour le travail. C'est celui qui aide pour le logement. C'est celui qui aide pour la famille, Saint Joseph.
Et concrètement, vous pouvez nous dévoiler un petit peu effectivement ce projet, ce nouveau projet qu'ont émis les sœurs de
Oui.
Cotignac. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme changement autour, je crois, de la chapelle, c'est ça?
Exactement. Ce sanctuaire de Saint-Joseph, du Bessillon, que l'on appelle du Bessillon, a été animé pendant de nombreuses années par des sœurs bénédictines. Et 2 ans avant leur départ, elles m'ont appelé donc, pour ce travail au service de la commission d'art sacré, puisqu'elles avaient le projet de restaurer la chapelle. C'est une petite chapelle, et
Qui est
les
juste au-dessus de
donateurs.
la grotte, alors.
Oui,
C'est ça?
exactement.
Qui est juste
Juste
au-dessus de la pierre, là?
de la source. Alors,
De
quand
la
vous
source.
allez dans le sanctuaire, vous allez prier Saint-Joseph et recueillir de l'eau, puisque la source est toujours présente. Et effectivement, il y a cette source qui est plutôt une grotte, hein, parce que les observations hydrogéologiques que l'on a fait récemment montrent que ce n'est pas comme à Lourdes, vous voyez, où il y avait une source qui a jailli du sol. Moi, je pense que c'est plutôt Joseph qui a poussé, disons, Gaspard Ricard, à rouler la pierre, presque comme le tombeau de Jésus, et à découvrir cette source, cette grotte dans laquelle il y avait la source, sur laquelle, une année plus tard, a été bâtie cette petite église très simple, mais très belle, très, très harmonieuse dans ses proportions. Et donc, les sœurs voulaient partir, mais en laissant cette chapelle encore plus belle. Alors, le projet a mûri. Les nouvelles sœurs qui aujourd'hui sont responsables de l'animation spirituelle et de l'accueil du sanctuaire, les sœurs de Mater Dei, poursuivent ce travail. Donc, c'est un travail qui a mûri depuis de longues années. Et aujourd'hui, nous pouvons commencer donc ces travaux de réfection complète de l'intérieur de la chapelle, tout en gardant et en préservant son histoire et ce patrimoine donc, qui nous est confié, mais en redécouvrant aussi ses origines. Par exemple, quelque chose de très concret, mais assez symbolique, il y a dans la chapelle une statue de Saint-Joseph qui lève la main droite et a mis sa main gauche contre son cœur. Alors les gens ne savaient pas exactement à quoi ça correspondait. Et lorsque l'on a fait des recherches historiques, avec des photos historiques de la chapelle, on s'est rendu compte que là où il était, ce n'était pas sa place, puisqu'en fait, il avait été réalisé, sculpté, pour être mis à droite du cœur. Et dans le cœur, il y avait un grand retable de la Sainte Famille et de Dieu, symboliquement représenté. Et donc Saint-Joseph était là, il faisait le lien. De la main droite, supplier Dieu, et de la main gauche, avec un cœur contrit, demander humblement que chaque intention qui était déposée à ses pieds puisse être exaucée. Saint Joseph, c'est l'intermédiaire de Dieu, hein. Il n'est pas la finalité, mais c'est celui qui pourvoit, celui qui prend soin, et qui a aussi l'oreille du Père, lui qui a été le Père adoptif de Jésus pendant tant d'années. On voit là le lien, et donc dans cette chapelle, on retrouve ce lien.
D'accord. Et l'aménagement aussi, du coup, de l'environnement de la chapelle aussi, ça va être un petit peu différent maintenant, parce que les sœurs, elles sont là, bien sûr. Elles sont derrière la grille aujourd'hui. Est-ce que
Oui, les sœurs.
on continue sur ce plan-là de la chapelle?
Effectivement, les sœurs bénédictines vivaient une vie de clausure, complètement cloîtrée, et
Oui.
donc le cœur était séparé par une très grande grille massive hein, qui les séparait des fidèles
C'est
pour
pareil.
maintenir la clôture. Les nouvelles sœurs de Mater Dei, aujourd'hui, ne sont plus cloîtrées, et donc cette grande grille disparaît. On ne conserve que la petite barrière de communion, comme on l'appelle traditionnellement, cette petite grille basse en tout cas, qui est la grille historique hein, qui sépare le sanctuaire. Et il y a une sorte de revirement, puisque l'autel qui était au centre, pour permettre justement aux bénédictines de garder la clôture, le cœur revient, l'autel revient dans le cœur, comme c'est traditionnellement l'aménagement des chapelles et des églises. Et les sœurs, avec leur stalle, là où elles s'assoient et elles prient plusieurs fois par jour, où elles récitent les offices et elles prient, revient dans la nef, ce qui permet, avec ce changement de position, d'agrandir cette chapelle qui pouvait contenir une trentaine, quarantaine de personnes. Aujourd'hui, pourra presque être doublée en capacité d'accueil, ce
Oui,
qui
c'est intéressant.
permettra de vivre à plus de personnes toutes les célébrations à l'intérieur.
Merci beaucoup. Arthur, vous nous avez donné très envie d'aller faire un petit pèlerinage à Cotignac. Vous pouvez nous dire à peu près quand est-ce que la chapelle sera terminée? Quand est-ce qu'on pourra de nouveau entrer dans cette magnifique chapelle qui sera entièrement rénovée?
Oui, c'est un chantier express, hein, qu'on a l'aide d'un architecte, de très bonnes entreprises, puisqu'en fait, il a fallu commencer après le 19 mars, le jour de la fête de Saint-Joseph, et terminer l'objectif, qui sera terminé pour donner les clés le 7 juin, c'est-à-dire le jour des apparitions. Et donc, le 19 mars, d'ailleurs, c'est le jour où Monseigneur est venu bénir la première pierre. La première pierre n'était pas celle de la chapelle, mais celle de la source qui est en contrebas, puisque on a déposé une pierre pour recevoir l'eau lorsqu'elle elle va augmenter petit à petit. Hein. On fait cette constatation que régulièrement l'eau de la source augmente. Et donc on a humblement déposé trois pierres au seuil de la source pour que l'eau puisse être recueillie. Et d'ailleurs, on a fait graver sur cette pierre cette phrase de l'apôtre Paul, « Lorsque le péché abonde, la grâce surabonde ». En ce moment, on a besoin de cette grâce, hein, qu'elle surabonde pour chacun d'entre nous. Donc, le rendez-vous le 7 juin, à partir du 7 juin.
C'est bientôt, c'est super. Oui. Et puis, vous allez aussi nous parler, Arthur, d'une autre initiative de la commission diocésaine d'art sacré. Je vous laisse parler. Hein ?
Oui, en collaboration avec le recteur du sanctuaire de Notre-Dame-de-Grâce, on a en fait proposé une icône de Saint-Joseph, pèlerin, avec un nouveau visage, puisque la tradition montre souvent Saint-Joseph comme un vieillard, un vieil homme, barbu, chauve, bref, un homme assez âgé, pour montrer symboliquement sa sagesse, sa chasteté. Mais les exégètes ou même l'histoire montrent que chez les Juifs, il ne fallait pas qu'entre un homme et une femme, il y ait une différence d'âge trop importante. Et les récentes recherches ont démontré qu'il était beaucoup plus probable qu'en fait Joseph était un jeune homme de quelques années de plus que la Vierge Marie. Donc ça montre encore plus la beauté du sacrifice qu'il a fait, de la continence dans la chasteté avec Marie. Ça montre aussi la sagesse et la profondeur. C'était véritablement un homme de Dieu. Et donc cette icône représente ce jeune père de famille, ce jeune Joseph qui porte d'une main l'enfant Jésus avec le lys, symbole de sa pureté. Et de l'autre main, il retient la main de son enfant adoptif, de l'enfant Dieu, de manière très tendre, avec des couleurs très belles. Et donc, avec le recteur du sanctuaire, nous avons réalisé 12 copies de cette icône. C'est une grande image. Et le jour de la Saint-Joseph, justement, le 19 mars, ces 12 icônes sont parties en pèlerinage dans 12 familles de paroisses, de 12 paroisses du diocèse, pour que Saint-Joseph puisse être le pèlerin qui va aller de famille en famille, de paroisse en paroisse. Ces familles ont donc la responsabilité de cette icône pendant un certain temps pour prier avec elle, pour confier aussi toutes leurs intentions pour leur famille, pour leurs amis, pour leurs proches, et que ensuite ils puissent accueillir aussi et prier ensemble et passer Saint-Joseph vers une autre famille. La situation aujourd'hui, elle devient compliquée, les pèlerinages s'annulent, on ne peut plus aller à certaines distances. Et donc là, c'était une manière prophétique de montrer que Saint-Joseph va pèleriner de famille en famille pendant ce temps.
Alors nous avons... C'est lui qui vient chez nous, en fait, c'est ça.
C'est lui qui vient chez nous.
On accueille le Saint qui vient chez nous, c'est magnifique.
Exactement. Oui, c'est de nombreuses grâces qui seront répandues de cette manière.
Arthur, un grand merci pour toutes ces belles nouvelles, cette année très sainte autour de Saint-Joseph. Et je vous propose aussi de prendre un petit temps de prière ensemble avec les auditeurs de Radio Maria pour confier cette année, confier à Saint-Joseph toutes nos familles, tous les pères de famille, les jeunes pères, les pères plus âgés, que chaque père puisse venir se ressourcer dans les bras, accueillir Saint-Joseph qui est travailleur, qui est protecteur, qui est un modèle de tous les éducateurs, Pape François disait qu'il aimait beaucoup Saint-Joseph comme un homme fort, un homme silencieux, un bon père de famille, que demander à Saint-Joseph qu'il vienne être, qu'il soit le gardien pour toutes nos familles. Et je, si vous voulez bien, Arthur, je vais conclure par cette belle prière aussi de, du pape François, qui nous dit « Saint-Joseph, époux de la Vierge Marie, veille toujours sur toute l'Église et protège-la en tout temps. Amen. »
Amen.
Encore un grand merci, Arthur, pour toute cette belle nouvelle qui nous donne
merci,
envie.
Merci, Chantal.
Qui nous donne envie de partir à la visite de Saint-Joseph à Cotignac pour voir les merveilles que le Seigneur est en train de faire dans, cette, dans, ce, dans, cette, dans cet endroit très saint, hein, qui est un endroit de ressourcement, de pèlerinage. Merci beaucoup et à bientôt, j'espère, pour une, de nouvelles aventures. Alors, Arthur.
Oui, avec plaisir. Merci aux auditeurs aussi de Radio Maria.
À bientôt. Merci, Arthur. Au revoir. À bientôt. Une très bonne après-midi.